France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Mexique, la musique et le monde, quatrième chapitre, le Mexique sur le chemin de la paix. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en 1919 et alors que l'Europe fête la paix retrouvée, le Mexique semble se réveiller enfin d'un cauchemar quand les armes de la révolution se taisent peu à peu. Hélas, de longs mois de disette et d'épidémie ont décimé des milliers d'habitants et la paix mexicaine est entachée par de nombreux meurtres, à commencer par celui d'Emiliano Zapata, ordonné par le président Carranza qu'il a attiré dans une embuscade et l'a fait abattre froidement. 100 ans après cette exécution, le pays a fait de l'année 2019 l'année Emiliano Zapata. Carranza est bientôt assassiné à son tour, tout comme Pancho Villa, 3 ans plus tard. La lutte armée populaire s'est achevée, la paysannerie n'a pas pris le pouvoir. Elle est épuisée par 10 ans de lutte et 1 million de morts, mais elle espère bien, grâce à la nouvelle constitution, que son cri de « Tierra y libertad » n'aura pas été vain. Un monde s'en va, un nouveau Mexique va renaître peu à peu. Dans la capitale, le public retrouve les théâtres et les satires des nombreuses revues musicales, dont l'une détourne curieusement une des plus belles danses du pays et l'une des plus mélancoliques aussi, la sandunga, pour s'en prendre aux candidats à la prochaine élection présidentielle. La sandunga, issue du fandango espagnol, est apparue dans l'isthme de Tehuantepec au sud du pays vers 1850. C'est cette sandunga originale qui débute notre émission. Sandunga, c'est un mot indien zapotèque et le chant loue l'élégance et la beauté de la femme et même sa belle indifférence.
Tus trenzas causan destellos, no por negras y sedosas, sino porque son dichosas cuando ruedan por tu pecho. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, cielo de mi corazón. Porque sabes que te adoro, te vales de la ocasión. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, tu amor me mata, negra de mi corazón. Thank you. al pie de un árbol bendito, llorando me arrodillé. Las lágrimas de mis ojos se cuajaban al caer. Ay, sandunga, sandunga, válgame Dios, sandunga, tú eres tepuana, cielo de mi corazón.
La sandunga interprétée à Tehuantepec par le duo des frères Ríos. La vie musicale renaît elle aussi. Ainsi, Manuel Ponce se remet à composer pour l'orchestre et dans ses estampes nocturnes, il croque un portrait mendelssohnien du farfadet d'époque, du songe d'une nuit d'été de Shakespeare, non sans quelque ironie. Comme le dit Puck à la fin de la pièce, « Nous ne sommes tous ici que des ombres. Allez, dites-vous simplement que vous vous êtes endormi et que tout ceci n'a été qu'un mauvais rêve. » Enrique Batiste à la tête de l'Orchestre symphonique du Mexique dans le Scherzo de Pâques, extrait des estampes nocturnes de Manuel Ponce, qui est devenu en 1920 le chef de file des compositeurs. Il vient de créer la première revue musicale au Mexique, un magazine par lequel il fait connaître les jeunes compositeurs. Et il songe de plus en plus à aller bientôt en Europe, en commençant par l'Espagne, où son ami l'écrivain Alfonso Reyes vient d'être nommé diplomate. L'Espagne, qui est à nouveau sous les feux des projecteurs, quand la danseuse Antonia Mercel, Argentina, est de retour à Mexico au Théâtre Colón. Ses représentations commencent le 30 avril, Au début, en cette paix encore instable, les théâtres dans leur ensemble ne font pas le plein. Mais Antonia Mercè parvient toujours à réunir un public très fidèle. De tous les ballets nouveaux qu'elle a présentés, les journalistes et le public ont plébiscité La Habanera de Pablo de Sarasate, qu'elle stylise de manière admirable, et le Mexique a toujours l'Espagne au cœur. Deux musiciens espagnols d'origine arménienne, Ara Malikian au violon et Seroi Krajian au piano dans La Habanera de Pablo de Sarasate. En 1919, alors que la saison d'opéra bat son plein, un jeune acteur, Roberto Sotto, remporte un succès étonnant dans l'opéra de Manuel Peneilla, El Gato Montes, créé 3 ans auparavant à Madrid. Le Gato Montes, le chat sauvage, c'est le surnom d'un bandit andalou qui se cache dans les montagnes et qui va être la cause de la tragédie qui va se jouer. Roberto Sotto, qui fait ses débuts, est très applaudi dans le rôle émouvant du picador, compagnon et ami fidèle du jeune torero qui se prépare à combattre dans les arènes, au grand désespoir de sa fiancée qui présage une fin fatale et qu'il exprime à grands cris. Roberto Sotto, avec sa voix incisive, a donné au personnage du picador un relief singulier et il deviendra par la suite l'acteur de revue musicale le plus renommé des scènes mexicaines. Quant à l'opéra El Gato Montes, il sera régulièrement à l'affiche des théâtres jusqu'à la fin des années 1930. La corrida a de nombreux adeptes au Mexique. La saison tauromachique commence en automne et dure de longs mois. Les toreros espagnols et mexicains sont de véritables stars. Dans l'opéra El Gato Montes, c'est la scène tragique de la corrida au rythme de son célèbre Paso Doble qui remporte chaque soir le plus grand succès. Les chanteurs Veronica Villarroel, Placido Domingo, Juan Ponce et Carlos Alvarez, le chœur et l'orchestre du Théâtre de la Zarzuela de Madrid, placé sous la direction de Miguel Roa, dans la scène de la corrida de l'acte 2 du Gato Montes, l'opéra de Manuel Peneilla. Ces années-là, beaucoup de Mexicains ne sont pas encore rentrés au pays, et plusieurs résident aux États-Unis. Parmi eux, deux artistes qui deviendront célèbres, les frères Revueltas, Fermín le peintre et Silvestre le violoniste, que leur père a envoyé étudier au Texas. En 1919, ils ont quitté Austin pour Chicago. Chicago était à l'époque un grand centre industriel et l'une des plus grandes villes des États-Unis aux côtés de New York. C'était aussi l'une des destinations préférées de l'immigration mexicaine. Fermín sera très influencé dans sa peinture par tout ce qu'il aura vu dans les musées de la ville. Quant à Silvestre, le violoniste, il a obtenu en juin tous ses diplômes au Chicago Musical College. Tous deux sont restés dans cette ville jusqu'en juillet 1920 et ils se sont mêlés aux fêtes de la communauté mexicaine, des fêtes rythmées le plus souvent par l'orchestre de guitare et de mandoline de la famille Ramos, dont les disques venaient de sortir. L'orchestre mexicain de la famille Ramos, enregistré ici à Chicago dans les années 1920. Le compositeur Julián Carrillo, qui s'était aussi exilé aux États-Unis, est rentré de New York. À Mexico, il reprend la direction du conservatoire qui a intégré l'orchestre symphonique national qu'il dirige. Au mois d'avril 1920, il rencontre le grand écrivain espagnol Vicente Blasco Ibáñez, qui vient de faire une tournée de lecture et de conférences aux États-Unis. À Mexico, lors d'une soirée littéraire, il doit lire des extraits de ses œuvres, dont le célèbre roman « Les quatre cavaliers de l'Apocalypse ». Julián Carrillo lui propose alors de faire participer son orchestre et d'interpréter des extraits d'un opéra, « Mathilde », qu'il n'a jamais pu faire représenter. Car le parallèle entre les deux œuvres lui semble évident. L'opéra raconte les amours impossibles durant la guerre d'indépendance entre un combattant mexicain et une jeune espagnole. De son côté, Le roman de Blasco Ibáñez évoque le destin tragique d'une grande famille mexicaine installée à Paris au début de la Première Guerre mondiale, une famille déchirée par les liens familiaux qui la rattachent à la fois à la France et à l'Allemagne. La musique de Carillo, très influencée par Wagner, avec sa courte citation de la Marseillaise, s'accorde ainsi parfaitement à cette soirée littéraire. De la ville donnait au ciel des teintes sanglantes. Dans quelques heures, lorsque le soleil se lèvera, on verra galoper à travers le monde les quatre cavaliers ennemis des hommes, ceux qui précèdent la bête de l'Apocalypse, et ils blasphèment contre la justice et l'harmonie d'une vie tolérable et douce. Thank you.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Un extrait de l'opéra Matilde de Julián Carrillo, qui a enfin été créé en 2010 dans sa région natale, dans la ville de San Luis Potosí. L'orchestre et le chœur de cette ville étaient dirigés ici par José Miramontes Zapata. Alors que Blasco Ibáñez est au Mexique, le film inspiré de son roman « Les quatre cavaliers de l'Apocalypse » est en tournage aux États-Unis avec l'acteur Valentino. Il sortira en 1921. À son retour en Espagne, Blasco Ibáñez devra s'exiler durant la dictature de Primo de Rivera. Il est mort en exil en France, à Menton, en 1928. Au Mexique, qui connaît plus de sérénité, une nouvelle salle de bal, El Salón México, ouvre dans la capitale et c'est tout un événement. Le Salón México est resté un endroit mythique de la ville, même après sa fermeture dans les années 60. Et le danzón y règne en maître. Cette danse venue de la Havane s'est vraiment imposée dans la ville de Mexico grâce à deux danzoneros d'origine cubaine, Tomás Ponce Reyes et Babuco, installés alors à Veracruz sur la côte Caraïbe. Ce sont eux qui font l'ouverture du Salón México le 20 avril 1920. C'était ici la danzonera de Juan Concha, enregistrée à la fin des années 20 dans le Danzón España de Tomás Ponce Reyes. Le danzón allait peu à peu s'imposer et enfreindre audacieusement les règles imposées jusqu'à la Révolution dans les salles de bal. C'était jusque-là des lieux très réglementés où, par exemple, on donnait des amendes aux couples qui ne savaient pas se tenir comme il faut. L'écrivain Federico Gamboa, dans son roman Santa, décrit très bien ce qu'est alors le Salón México. À l'entrée de la salle est accrochée une pancarte qui annonce « Danzón ». Et vers 13h30, alors que la salle est pleine à craquer, le danzón éclate avec un fracas de tempête tropicale, les timbales et les trompettes font trembler les vitres des fenêtres et elles mettent la rue en feu. Les passants paisibles s'arrêtent en tournant la tête, souriant, totalement conquis par ce que promettent ces harmonies errantes et lubriques. C'étaient les petites gens, les employés, les ouvriers qui venaient avant tout au Salón México, qui disposaient de 3 salles, dont l'une réservée aux plus aisés. Le danzón se dansait toujours comme une sorte de rituel avec élégance et noblesse, le buste droit. Un érotisme incandescent se dégageait des parfums capiteux et des robes près du corps que portaient les femmes. La tradition ne s'est pas perdue. Et si vos pas vous mènent à Mexico, vous trouverez toujours aujourd'hui ce même rituel au Salón Los Angeles.
Thank you.
S'il y a une danzonera de légende à Mexico, c'est bien celle du cubano-mexicain Acerina. On l'entendait ici dans un danzón, de nouveau, de Tomás Ponce Reyes. Et où en sont les compositeurs et musiciens mexicains alors que la tourmente révolutionnaire s'apaise enfin? Silvestre Revueltas rentre bientôt des États-Unis et Carlos Chavez l'entend dans les récitals de violon qu'il donne à son retour à travers tout le pays. Et il comprend aussitôt qu'il a là affaire à une personnalité hors du commun. De son côté, Julián Carrillo ne compose presque plus, investi qu'il est dans sa tâche de directeur artistique du Nouvel Orchestre Symphonique du Mexique. C'est donc Manuel Ponce qui reste le chef de file des compositeurs. Il n'a gardé que sa classe de piano au Conservatoire National. Et il est en pleine période de remise en question, y compris en ce qui concerne la composition. Il trouve un écho puissant dans la poésie de Rabindranath Tagore. Le poète bengali est connu en Amérique latine, notamment depuis les tournées qu'il a effectuées dans les Amériques à partir de 1913. Son offrande lyrique est lue dans tout le continent, notamment dans la traduction d'André Gide. C'est d'ailleurs sur une adaptation en français d'un poème de ce recueil que Ponce écrit son œuvre la plus noire, pour mezzo et quatuor à cordes. Il la créera à Paris, en 1928, avec deux autres poèmes de Tagore. Le jour est fini. Ô mort, ta servante est à ma porte. Elle a traversé la mer inconnue pour me faire part de ton appel. La nuit est noire, mon cœur a peur, mais je prendrai ma lampe et j'ouvrirai ma porte. Ta messagère sera devant moi. Dans la maison vide, il ne restera plus que moi-même. La dernière offrande que je te fais.
Thank you.
La mort, le poème de Rabindranath Tagore, mis en musique par Manuel Ponce, interprété par la mezzo-soprano mexicaine Gabriela Thierry et Los Cameristas de México, dirigé par Luis Humberto Ramos. La relation de Tagore avec la mort a trouvé naturellement au Mexique un écho profond quand on connaît l'intimité que le peuple entretient avec elle. En 1920, parmi les exilés qui rentrent au pays, il y a le jeune José Vasconcelos, qui avait pris part à la révolution de 1910, mais qui avait dû se réfugier aux États-Unis quand il s'était opposé au président Carranza. Écrivain, penseur et politicien, fondateur du premier athénée littéraire mexicain, féru de peinture et de musique, Vasconcelos a alors 37 ans et le nouveau président le nomme à la tête de l'Université autonome du Mexique. Un an plus tard, Vasconcelos crée le premier secrétariat d'instruction publique où il a le statut de ministre de la culture en quelque sorte. Les ouvriers et les paysans soutiennent le nouveau chef d'État Obregón qui procède dans les campagnes à la restitution des petites propriétés aux paysans dépossédés de leurs terres par les grands propriétaires terriens. Dans ce Mexique plein d'espoir et d'optimisme, la chanson sentimentale revient en force. Et le boléro aux amours passionnels venu de Cuba fait une entrée remarquée dans le pays. C'est en 1921 qu'un compositeur de 19 ans, Armando Villarreal, compose le premier grand succès de boléro mexicain, Morenita Mia, ma petite brunette. Le soir, j'allais rencontrer ma Morenita et je plongeais mon regard dans les étoiles brillantes de ses yeux. Morenita, je ne t'oublierai jamais et toi non plus, je t'en prie. Ne m'oublie pas.
Conocí una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos y mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado. Ojos como dos luceros me habían fascinado. Que cuando en ella pienso mucho, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, ilusiones blancas y bellas como la flor, un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Thank you. grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y bellas como la flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si tú te olvidas, siempre felices seremos los dos.
Le duo des frères Martinez Gil dans ce qu'on considère comme le premier boléro mexicain Morenita Mia. En 1921, le pays reprend espoir, notamment grâce à l'action de ce nouveau ministre Vasconcelos. Sous son impulsion, un sérieux effort est fait en faveur de l'éducation. Le nombre des écoles rurales a triplé. Le taux d'alphabétisation passe de 25% à 51% en moins de 6 ans. Vasconcelos mène une véritable croisade nationale pour l'éducation durant de nombreuses années. Il encourage l'éducation des Indiens. Il crée des réseaux de bibliothèques, des missions culturelles, des concerts de musique populaire et de musique classique. Tant d'initiatives qui vont donner un nouvel élan à travers tout le pays. Le compositeur Manuel Ponce, en 1921, célèbre aussi ce renouveau et met en chantier une fresque symphonique dans laquelle il évoque le début du printemps dans l'immense parc de Chapultepec, qui a des allures de forêt en plein centre de Mexico. Une œuvre à laquelle il tient beaucoup, puisqu'il la remaniera à plusieurs reprises durant les années 1920.
Thank you.
De nouveau, l'Orchestre symphonique du Mexique dirigé par Enrique Batiste dans le premier mouvement, La Primavera, du poème symphonique Chapultepec de Manuel Ponce. L'Espagne est aussi de retour au Mexique. Après la danseuse Antonia Mercel Argentina, c'est Encarnación López qui brûle les planches des théâtres de la capitale. Née elle aussi en Argentine, on l'appelait l'Argentinita, la petite Argentine, en hommage à son aînée. Elle avait 23 ans et elle terminait à Mexico sa tournée latino-américaine après des débuts impressionnants au Théâtre Empire de Buenos Aires. Elle débarque en pleine saison tauromachique, durant laquelle le torero espagnol Ignacio Sánchez Mejías remporte un triomphe impressionnant devant son rival mexicain dans les arènes de la Condesa. L'Argentinita rencontre Ignacio Sánchez Mejías et c'est le coup de foudre. Ignacio Sánchez Mejías sera son compagnon jusqu'à sa blessure mortelle dans les arènes de Manzanares en août 1934. En Espagne, l'Argentinita lui fera connaître Lorca, de Falla, et grâce à elle, il deviendra même un acteur et un poète. Et tout cela avait débuté à Mexico, où il est revenu souvent toréer. L'Argentinita est ici accompagnée par son guitariste fidèle Salvador Ballesteros dans un tango andalou. Ce tango venu un jour d'Amérique jusqu'en Andalousie. C'est avec l'ami de Federico García Lorca, la superbe Argentinita, dans son tango rosa, qu'on se quitte aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques. L'émission était réalisée par Béatrice Trichet, à la prise de son Pierre Monteil, une émission qu'on peut écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.